Bien, je commencerai tout de suite par une remarque sur l'exposé de Marc, pour ne pas l'oublier. Il a cité PISA à juste titre. Il faut peut-être préciser que une grande partie de l'hétérogénéité de la situation et des élèves et des résultats des élèves français s'explique par le redoublement et les retards. Hein. Si on avait fait composer que les élèves de 15 ans en seconde générale, c'est-à-dire à peu près la moitié de la promotion française, ils auraient été devant les Finlandais, les Japonais et les Coréens. Voilà. C'est tous les autres, l'autre moitié, qui se répartit dans toutes les situations que vous pouvez imaginer, hein, en quatrième, en troisième, en seconde pro, et sur toutes les formes possibles de scolarisation, qui évidemment nous plombent du fait de la proportion trop importante, en effet, d'élèves faibles par rapport aux autres pays. Voilà, alors ceci dit, petite précision en ce qui me concerne. D'une part, je suis aussi membre de l'OZP, membre du bureau de l'OZP, donc tout à fait solidaire de ce que Marc vous a dit sur le fond. Et d'autre part, je ne suis pas IGN, mais IGANR, hein, c'est-à-dire j'appartiens à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, et pas à l'inspection dite pédagogique. Mais nous travaillons beaucoup ensemble depuis plusieurs années déjà, y compris sur l'éducation prioritaire, ne serait-ce que parce que Jackie Simon était un IGANR et Catherine Moisan une IGN, donc ça montre que ça date pas d'aujourd'hui. Alors, finalement, qu'est-ce qui m'autorise à vous parler? Bon, je dirais, je vous ferai peut-être plus un topo d'inspecteur général que de militant de l'OZP, bon, même si il y a une certaine articulation entre les deux aspects. Disons, j'ai 15 ans d'expérience comme inspecteur général, les 6 dernières années essentiellement dans l'académie d'Amiens, les 9 années précédentes dans d'autres académies de l'ouest de la France. Donc j'ai vu beaucoup d'établissements en éducation prioritaire, et j'ai relu avant de venir, disons, mes 3 derniers rapports sur l'académie d'Amiens. Comment ça se passe, disons, ces audits, en deux mots, bon, vous voyez un peu le contexte. En général, j'interviens seul dans les collèges en rare. C'est plutôt, disons, dans les très gros établissements, hein, les très gros lycées, les cités scolaires, qu'on essaye de venir à deux, y compris quand c'est possible avec un collègue IGN, hein, mais c'est pas souvent le cas. Donc, disons, je choisis le collège à la fois en fonction, disons, de préférences personnelles, hein, de toute nature, qui peuvent être géographiques ou autres, mais en fonction aussi des recommandations des inspecteurs d'académie. Je sais que si je vais uniquement là où ils veulent m'envoyer, je verrai que les établissements en difficulté. Or, je veux pas voir que ça. Je veux voir aussi bien, hein, des établissements en difficulté que des collèges de centre-ville très favorisés, parce que c'est intéressant de comparer toute une série de situations. Donc je panache un peu, disons, pour choisir les sites. Je reçois une documentation quelques semaines avant la visite, assez importante. Ensuite, un audit de collège, qu'il soit d'ailleurs en éducation prioritaire ou pas, c'est la même durée. 3 jours. 3 jours complets. Hein, donc déjà, ça estomaque, évidemment, hein, les personnels de direction qui n'ont pas l'habitude, parce que mes collègues IGN, évidemment, ne restent jamais, hein, plus d'une demi-journée, dans le meilleur des cas, et encore, ils sont de moins en moins présents, effectivement, dans les collèges. Mais c'est pas du tout le même genre d'exercice. Hein, donc, 3 jours, ça consiste à rencontrer tous les acteurs, et en tête-à-tête, évidemment, en dehors de la présence de la direction. Donc je vois tout le monde, hein, les enseignants à plusieurs reprises, les personnels techniques et de service, parents d'élèves, les élèves bien entendu, les élus locaux, enfin tous les acteurs, quand c'est un collège en rare, bien sûr l'IEN, les directeurs d'école, en complément de ce que je peux voir d'habitude. Bon. Bon, au bout des 3 jours, à la fin, je fais une première restitution, un petit peu à chaud, auprès du chef d'établissement, puis de l'équipe de direction élargie, et je leur donne un peu mes premières impressions, qui sont en gros la trame de mon futur rapport, que j'envoie quelques semaines après, à la fois au recteur, à l'inspecteur de l'académie et au chef d'établissement. Il est le seul à recevoir le rapport au collège, mais je lui demande toujours de faire connaître au moins les 4 ou 5 dernières pages, hein, qui sont les conclusions et recommandations d'ordre général. Le reste, il peut y avoir des appréciations personnelles, donc c'est pas forcément à diffuser très largement, mais la partie recommandation ne concerne que le fonctionnement du collège et les améliorations souhaitées. Hein. Bon, c'est beaucoup plus un exercice de conseil que de contrôle. Hein. Je fais très peu de contrôle, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est tellement facile, disons, il y a tellement de réglementations à l'éducation nationale que personne ne peut ni les connaître ni les appliquer toutes, bien sûr. Donc il faut se concentrer sur l'essentiel et l'important, c'est d'aider à faire progresser le collège dans son fonctionnement, que ce soit pour la vie scolaire ou pour les parcours des élèves. Voilà. Je crois que je vous ai dit à peu près sur la méthode, disons l'essentiel. Hein. Vous me direz qu'est-ce que deviennent vos recommandations après. Là, je dirais, c'est plus mon affaire. Bon, si j'étais un auditeur vraiment rigoureux, je reconnais, comme certains de mes collègues le font, il faudrait revenir 6 mois ou 1 an après pour voir comment les recommandations ont été prises en compte et mises en œuvre. Bon, je le fais pas. Contrairement à certains de mes collègues, pour 2 raisons. D'une part, parce que j'ai tendance à faire confiance aux directions de collège ou de lycée pour les mettre en œuvre. L'expérience montrant que 9 fois sur 10, quand on leur propose des mesures concrètes, sérieuses et réalistes, ils les mettent en œuvre. Hein. Et que la 10e fois, c'est plutôt eux qui ont raison de ne pas le faire pour des raisons locales qui leur appartiennent. Hein. Et enfin, un deuxième argument, c'est que si on revient systématiquement sur le lieu des anciennes visites, on en fait moins de nouvelles, et donc c'est un arbitrage entre les deux préoccupations. Voilà. Alors, j'ai choisi de vous parler essentiellement du pilotage, hein, parce que je crains en effet, comme certains des participants l'ont dit dans le questionnaire, que ce point soit un peu le parent pauvre de la semaine. Et donc, je vais effectivement essayer de combler cette lacune à ma façon, hein, qui n'est pas forcément la façon officielle, vous allez vite vous en rendre compte, en 2 parties essentiellement. En première partie, qu'est-ce que ça veut dire piloter à l'éducation nationale? Et deuxième partie, qu'est-ce que ça veut dire piloter un collège en réseau ambition réussite? Bon. Alors, d'abord, une considération un peu générale. Qu'est-ce que ça veut dire piloter à l'éducation nationale? Ben, pour moi, c'est 2 choses. 1, c'est fixer le cap et donner le sens du voyage. 2, c'est décider de la route, des escales et des corrections de route si nécessaire. Bon, ça veut dire tout de suite que il peut y avoir qu'un seul pilote dans l'avion ou dans le bateau. Hein. La notion de pilotage partagé est une absurdité, à la fois managériale et éducative. Hein. Unité de l'organisation, unité de direction. Hein. Donc, à l'éducation, notre problème, c'est que la compagnie Éducation nationale a énormément d'administrateurs maritimes. Hein. Il y a plein de gens dans les bureaux qui demandent des statistiques, des comptes rendus, hein, qui font des directives sans avoir jamais tenu la barre, hein, d'un navire. Mais on a très peu de capitaines capables d'affronter la haute mer, hein, pour filer la métaphore maritime. Hein, voilà. Autrement dit, le pilotage, il peut être assisté, mais il ne se partage pas. Voilà. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas du tout d'accord avec, effectivement, M. Maignan et ce qu'il écrit dans XYZ en décembre 2009, hein, à propos des pilotes. Puisqu'il considère que les inspecteurs, les secrétaires de comité exécutif et chefs d'établissement que nous appellerons pilotes, bon, c'est pas la même conception. Hein. Je reconnais qu'il peut y avoir plusieurs conceptions, effectivement, du pilote. Pour moi, c'est essentiellement, je veux dire, les chefs d'établissement. Donc je m'adresse parmi vous plutôt, évidemment, au personnel de direction et d'inspection, Bon, j'espère que les autres se sentiront un peu aussi concernés indirectement. Si on prend par exemple, c'est pas le problème, avant de prendre le problème de l'éducation prioritaire, le problème du pilotage d'un EPL, hein, que ce soit un collège, un lycée d'enseignement général ou un lycée professionnel. Bon, on lit souvent, hein, y compris sous la plume de nos ministres, de nos directeurs, de nos recteurs, etc., que c'est un pilotage pédagogique partagé. Hein. Pour moi, pas du tout. Hein. Je veux dire, les enseignants et la direction pédagogique d'un établissement ne dépendent que du chef d'établissement. Hein. Le rôle des inspecteurs est effectivement de seconder, d'assister, d'évaluer, de conseiller, de former. Et c'est un rôle important et tout à fait nécessaire, et surtout en éducation prioritaire, hein, où ils commencent à être un peu plus présents, beaucoup moins que le rapport très optimiste de la DGESCO le dit, effectivement. Mais c'est sa tonalité générale, hein, d'être plutôt effectivement optimiste, pour pas dire plus. Donc même si les inspecteurs commencent à être un peu plus présents sur le terrain, il y en a encore très peu qui mettent les mains dans le cambouis, hein, qui se mettent au fond de la classe pour expliquer aux enseignants comment s'y prendre. Bon, alors c'est souvent là-dessus qu'ils butent, dans des choses élémentaires de gestion de classe, de tenue de classe, d'organisation des cours, etc. Pour les rares, pour moi, c'est un peu la même chose. Alors, je reviens un instant-ci aux EPLE. Donc, pas de pilotage pédagogique partagé, hein, un pilotage assisté, mais du fait du principal ou du proviseur. Et c'est pas parce que la notation des enseignants est partagée, en effet, elle, entre une notation administrative et une notation pédagogique, hein, que les enseignants dépendent principalement des inspections. Moi, je pense qu'ils vont dépendre de plus en plus, c'est déjà largement le cas, mais de plus en plus à l'avenir de la hiérarchie directe, immédiate, hein, que représente en effet le chef d'établissement, et beaucoup moins de la hiérarchie lointaine, qui a de moins en moins vocation d'ailleurs à évaluer ce qui se passe dans les établissements. Alors, dans les rares, est-ce qu'on peut parler de copilotage entre le principal du collège et l'IEN de la circonscription? Moi, je ne pense pas. Je sais bien que c'est écrit dans la circulaire, mais c'est loin d'être la réalité sur le terrain. Je pense qu'on peut parler de co-animation, ce qui est déjà pas mal, ce qui serait déjà bien si ça se réalisait partout. C'est loin d'être le cas. En fait, disons, l'expérience que j'ai, récente par exemple, j'ai vu, disons, assez à fond, hein, trois rares dans l'Académie d'Amiens au cours des quatre dernières années. Eh bien, on peut pas dire que ça marche très bien, hein, la co-animation. Hein. Chacun est principalement sur son terrain, le principal sur la politique, effectivement, du collège, l'IEN sur, disons, les objectifs et les priorités du premier degré. Bon, au mieux, on discute et on met en œuvre, hein, les projets communs interdegrés, c'est déjà pas rien, hein, puisque c'est en effet le principal sujet de discussion et d'échange, hein, dans les comités exécutifs, hein, ce sont en effet les projets interdegrés. Bon, mais on est très loin, disons, d'une unité de vue, d'objectifs, etc. Et d'ailleurs, peut-il y avoir dans un réseau un autre fonctionnement? Moi, j'en suis pas persuadé. Un réseau, c'est un ectoplasme. Hein. Ça n'a pas d'existence juridique, ça n'a pas d'existence administrative. C'est purement managérial et pratique. Alors, ça peut fonctionner lorsque tous les acteurs sont de bonne volonté, sont d'accord entre eux, sont persuadés qu'il est de l'intérêt de tous de mettre en œuvre des projets communs. Mais si chacun veut en faire le minimum et rester sur son pré carré, ça marche comme ça. Bon, voilà pour le premier point. Alors, en rare, qu'est-ce qu'un principal de collège peut faire? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Bon, c'est surtout ce point que je vais maintenant développer. Bon. Est-ce qu'il y a une spécificité du pilotage en éducation prioritaire? Moi, je crois pas. Je crois que pour l'essentiel, pour l'essentiel, disons, les aspects fondamentaux du pilotage sont exactement les mêmes, qu'on soit dans un établissement UP ultra favorisé de centre-ville ou qu'on soit dans la plus difficile des banlieues urbaines, etc. Alors, en revanche, ce qui change beaucoup, c'est bien sûr le contexte, l'environnement, les ressources dont on dispose, tout à fait d'accord. Hein. Mais la responsabilité de la direction et ses méthodes d'action, pour l'essentiel, encore une fois, pas intégralement, mais pour l'essentiel, ce sont les mêmes. Hein. Bon, ce qui d'ailleurs pose une question en matière de formation. Hein. Faut-il laisser les gens de l'éducation prioritaire se former entre eux uniquement? Ou faut-il les intégrer, disons, avec des collègues ayant d'autres expériences dans d'autres contextes? C'est une question. Alors, premièrement, quel profil peut-on attendre d'un principal de collège en RAR? Quel est son rôle? Bon, d'abord, je pense qu'il faut qu'il ait une expérience antérieure assez importante. Ça me paraît complètement déraisonnable, mais je sais que ça arrive, hein. De nommer principal d'un collège en RAR quelqu'un qui n'a pas plusieurs années d'expérience dans d'autres établissements. On attend de lui qu'il soit à la fois ouvert et exigeant. Et ça, c'est difficile. Hein. On est souvent l'un ou l'autre. Hein. Exigeant, si on l'est trop, c'est le risque d'autoritarisme qui n'est pas négligeable. Hein. Moi, je peux vous dire, d'après mon expérience de 15 ans d'audit d'établissement, qu'il y a à peu près 20% des chefs d'établissement qui versent dans l'autoritarisme, hein, qui ne délèguent rien, ils font confiance à personne, ils font pas circuler l'information. J'en ai même vu un qui avait le trousseau de clé du collège à la ceinture, hein, comme un gardien de phare, etc. Voilà. C'était très significatif. Bon. L'autre aspect, c'est-à-dire l'ouverture, l'écoute, la compréhension, tout aussi nécessaire que l'exigence. Mais là, le risque, c'est de laisser aller, c'est le laxisme, ça, qui est beaucoup moins répandu que l'autoritarisme, mais qui existe aussi, hein, qui peut arriver. Alors, en RAR, c'est assez peu fréquent, hein, parce que c'est quasiment mortel, tout de suite. Hein. Si vous laissez les choses filer, si vous ne les cadrez pas, là, vous ne tenez pas plus d'une année scolaire, hein, c'est évident. Mais j'ai vu des cas d'un chef d'établissement qui n'en pouvait plus, effectivement, avec ses enseignants. Hein. En plus qu'on leur fait pas de cadeaux, évidemment. Hein. Donc il s'est réfugié derrière son micro, et il passait des heures, il est devenu un champion, effectivement, de la télématique, etc. Je lui dis qu'il serait bien plus heureux comme responsable départemental hein, des TIS, que j'essaie de le convaincre hein, de prendre ce poste. Bon, il a fini par se faire virer, mais enfin, voilà... Ça arrive. Bon. Alors, autre problème, là, beaucoup plus fréquent, c'est que beaucoup de gens croient que ce qu'on attend d'un chef d'établissement, c'est essentiellement de gérer tranquillement sa boutique, quoi. Hein? Si on parle pas de moi, si j'ai pas de conflit avec mes personnels, si j'ai pas de démarche des parents d'élèves, bon, c'est que tout va bien, hein. Et effectivement. Bien, l'institution raisonne assez largement comme ça. Hein, si j'entends pas parler de tel ou tel établissement, c'est que ça va bien. Elle ne va jamais y voir de plus près. Hein. Elle ne va jamais passer une journée complète hein, pour interroger d'autres personnes que le chef d'établissement. Bon, mais ce qu'on attend d'un chef d'établissement, c'est pas de gérer sa boutique. C'est même pas de maintenir ou de rétablir la sérénité, la paix scolaire lorsque l'établissement a été bousculé précédemment. Où s'il y a un degré, disons, de violence, d'incivilité, c'est vrai qu'on peut rien faire d'autre avant d'avoir effectivement ramené une certaine paix sociale, hein, une certaine tranquillité dans l'établissement. Mais ça, c'est les préliminaires. Hein. Ce qu'on attend essentiellement, mais ça, on le dit pas dans les lettres de mission. Je ne sais pas si vous avez lu, pour certains, alors, je ne parle pas de ceux d'entre vous qui sont cadres de l'éducation nationale, mais ceux qui ne le sont pas. Si vous avez jamais lu une lettre de mission, c'est extrêmement révélateur. Hein. On y trouve tout, sauf des choses fortes. Hein. C'est-à-dire, on vous rappelle en deux pages sur trois quels sont les objectifs académiques. Hein. Bon, c'est un grand intérêt, parce que sûrement ils savent pas ce que c'est. Puis ensuite, on vous donne vaguement deux ou trois indicateurs, etc. Rien de précis, de fort, de quantifié, d'évaluable dans un délai déterminé. Hein. Donc on a encore du progrès à faire sur les lettres de mission. Hein. Donc, ce qu'on attend d'un principal de collège en rare, c'est pas seulement qu'il maintienne ou qu'il rétablisse, c'est qu'il développe. Et à commencer par ses collaborateurs, qui développent les capacités, le potentiel, la responsabilité de ses proches collaborateurs, et si possible, au-delà, bien sûr, des équipes enseignantes. Bon, alors ça veut dire aussi être préparé à la gestion de conflits, ce dont on a horreur à l'éducation nationale. On est un des ministères les plus en retard. Je peux vous le dire, parce que j'ai passé 15 ans à la fonction publique, hein, comme chef de service adjoint du directeur général de la fonction publique. Donc je connais toutes les administrations publiques françaises. Bon, celle qui est effectivement sur la GRH la plus en retard, c'est l'éducation nationale, hein, dans tous les domaines. Hein, tous les domaines. Si jamais un jour vous avez sous les yeux effectivement un dossier de promotion, hein, d'un officier de la Défense ou d'un attaché de l'éducation nationale, vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. D'un côté, il y a effectivement, c'est précis, clair, net, franc. De l'autre, il faut lire au troisième degré pour comprendre si on en veut ou on n'en veut pas. Voilà, donc on n'apprend pas, on n'apprend jamais, ou très rarement, ou mal, à gérer des conflits, alors que c'est une composante absolument naturelle du management. Je veux dire, il y a des cas où le conflit est inévitable. Alors reste à savoir comment s'y préparer, comment trouver les alliés, comment pas se mettre à dos, évidemment, maladroitement, la totalité des enseignants ou des parents d'élèves, etc. Mais bien gérer certains conflits font avancer les choses. Autre chose, évidemment, il faut qu'il y ait une durée suffisante dans l'exercice des fonctions. 3-4 ans, c'est vraiment un minimum. 5-6, c'est mieux. Bon, au-delà, ça devient trop. Hein. Il faut aussi, effectivement, avant d'attendre les limites réglementaires de 9 ans, que les personnels de direction puissent bouger, puissent respirer et puissent préparer leur succession. Ça, c'est très important. Bon. Ensuite, alors, équipe de direction. Bon. Alors, faut-il la choisir ? Bon, ça, c'est aussi la problématique claire. Hein. On en a parlé déjà. Il y a des avantages et des inconvénients. Évidemment, coopter, disons, ses collaborateurs directs, à court terme, ça peut paraître effectivement une assurance qu'ils seront en accord avec le projet d'établissement, davantage que des gens venant par le hasard des mutations, hein, ou des affectations. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe si le chef d'établissement part au bout d'un an ou deux ? On vire toute l'équipe de direction, hein, pour la remplacer par une nouvelle ? Bon, donc c'est loin d'être la panacée, la cooptation. Il y a des établissements qui marchent très bien dans le système absolument de droit commun d'affectation des personnels. Il y a des établissements expérimentaux où on a pratiqué depuis longtemps cette cooptation qui marche très mal. Donc c'est pas en soi une garantie. Ce qui est important, c'est la cohérence, effectivement, et la solidarité de l'équipe de direction. Alors, l'équipe de direction, c'est souvent, dans un collège en rare, donc l'adjoint, le CPE, voire les CPE, quand c'est un gros collège, le directeur adjoint d'un SECPA. Hein, quand il y a une SECPA, ce qui est assez souvent le cas, effectivement, dans les collèges en rare. Bon. Une des choses élémentaires en matière de management, donc, que font les autres administrations depuis des années, et qu'on ne pratique que très peu à l'éducation nationale, c'est de fixer des objectifs à chacun des membres de l'équipe de direction. La première tâche, effectivement, d'un chef d'établissement, c'est de dire à chacun de ses adjoints, voilà, hein, je vous donne 2 ou 3 points essentiels à suivre pendant toute l'année scolaire. Et on parlera à la fin de l'année la manière dont vous les aurez mis en œuvre. Ça ne se fait pas aussi systématiquement que cela. Et pourtant, c'est le béaba du management. Si on n'est pas capable de fixer des objectifs, il faut surtout pas faire de projet. Hein, le projet, c'est le cours supérieur de management. Si vous savez pas animer une réunion, fixer des objectifs, diriger une équipe au travail, ne vous lancez pas dans les projets. Encore moins dans des contrats d'objectifs. Tout ça, c'est du blablabla. On n'a aucune réalité, hein, dans la plupart des cas. Hein, commencez par l'élémentaire, hein, la fixation d'objectifs. Dernier point que je répète rapidement. Bon, on n'utilise pas assez les conseillers d'orientation psychologues lorsque ils connaissent bien les collèges en rare et même les autres d'ailleurs établissements. Hein, depuis plusieurs années, souvent ils sont de très bons conseils auprès des directions. Hein. Et je vous rappelle qu'ils sont pas seulement au service des élèves et des familles, mais qu'ils sont aussi conseiller technique des directions de PLE. Et donc, il faut absolument avoir avec eux une ou deux séances de travail par an, de 2 ou 3 heures, hein, approfondies, où on fait le bilan de la politique d'orientation de l'établissement, où on compare avec les établissements identiques du bassin ou du département, etc. Ils peuvent apporter beaucoup à l'équipe de direction. Bon, alors, ensuite, les outils. D'une part, les leviers. Bon, alors c'est peut-être un peu artificiel de distinguer les deux. Bon, disons les outils, plutôt les techniques. Hein, les leviers, c'est plutôt ce qui peut permettre de faire avancer les projets. Bon. Parmi les premiers outils, moi je mentionnerai le rapport d'activité que la loi d'orientation de 1989 a effectivement rendu obligatoire. C'est son article 26, hein, pour tous les personnels de direction. Bon, je suis convaincu qu'il y en a 80% qui ne respectent pas la loi, qui ne connaissent pas cette obligation professionnelle. Ils auraient dû être sanctionnés depuis longtemps, évidemment, si on était un ministère sérieux. Hein. Or, les recteurs et les inspecteurs d'académie ont baissé les bras dans beaucoup de cas. Il n'y a plus que nous, IGANR, qui rappelons imperturbablement cette obligation légale au personnel de direction. Pourquoi on fait... Alors, le rapport d'activité, il s'adresse d'abord au conseil d'administration, hein, avant d'être envoyé éventuellement à l'inspecteur d'académie ou au recteur. Hein. C'est au conseil d'administration qu'on doit rendre des comptes. Hein. C'est la vocation du conseil, d'ailleurs, d'administrer, effectivement, les établissements. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on doit y trouver dans le rapport d'activité? En gros, 3 volets. Hein. D'abord, un tableau de bord des résultats scolaires, c'est-à-dire tout ce qui concerne résultats aux examens, passage de classe, orientation. Bon, ça, c'est fait presque partout. Mais encore, faut-il pas se contenter de donner des chiffres bruts? Il faut les commenter, les expliquer, les resituer dans le contexte. Et ça, c'est essentiel. Bon, par exemple, le taux de redoublement, hein, est un indicateur absolument ambivalent, qui ne dit rien par lui-même. Il n'y a rien de plus facile, en théorie, hein, que de réduire à 0, effectivement, les taux de redoublement à tous les niveaux. Simple décision administrative du chef d'établissement. Alors, ça fera pas plaisir à un certain nombre d'enseignants. Le rapport sur les rares, effectivement, se plaint que, effectivement, dans les rares, justement, alors que c'était prévu, ils subsistent, même s'ils subsistent très faiblement, mais ils subsistent quand même. Bon, autrement dit, si on regarde de près les choses, et ça, le rapport pose la question, est-ce que la baisse du taux de redoublement est le signe de progrès des élèves? On n'en est pas du tout persuadé. Moi, je suis convaincu que dans beaucoup de cas, en rare, c'est uniquement l'effet des injonctions administratives, hein, les injonctions nationales, académiques, etc. Et qu'on continue à faire passer chaque année un nombre important d'élèves dans la classe supérieure alors qu'ils n'ont pas le niveau requis. Donc c'est le problème majeur actuel du collège en France, et ça commence à toucher le lycée, c'est plus le redoublement qui est devenu marginal, c'est le passage automatique de classe sans que le niveau soit atteint. Et ça, c'est pire que le redoublement. Hein, c'est-à-dire envoyer les gens dans le mur le plus vite possible, ne pas les faire stationner, mais au contraire, les éjecter dès qu'on peut. Hein, et si on pouvait le faire dès la 5e, on le ferait. dans un certain nombre d'établissements. On les garde, parce qu'on est bien obligé jusqu'en troisième. Mais après, ils vont grossir les rangs des 150 000 sorties sans diplôme. Voilà. Alors, deuxième élément du rapport d'activité, le tableau de bord de la vie scolaire. Bon, là aussi, il est rarement complet. C'est-à-dire que, sur l'absentéisme, bon, on trouve souvent des données, mais peut-être pas mois par mois, division par division. C'est ça qu'il faut avoir en collège, hein, comme en lycée. Pour les sanctions, il suffit pas de donner les exclusions définitives. Hein, il faut donner toutes les sanctions et punitions au cours d'une même année, avec les données de l'année précédente et, si possible, les données des établissements comparables du bassin ou du département. Et enfin, moins important, là je passe plus vite, disons un résumé de la gestion administrative et financière, c'est le troisième volet. Bon. Alors ensuite, projet d'établissement, lettre de mission, contrat d'objectif. Bon, j'insiste pas. Je crois au projet d'établissement, mais pas du tout la manière dont ils sont faits la plupart du temps. C'est-à-dire que projet d'établissement, c'est pas le projet du principal ou du proviseur. Hein, ça suppose une élaboration collective, ça suppose du temps. Ça suppose une actualisation collective, etc. On a beaucoup de faux projets. Les lettres de mission, bon, je vous ai dit ce que j'en pensais. Les contrats d'objectifs, pour moi, c'est très souvent plus des vérifications de conformité à la politique académique ou départementale que de vrais contrats d'objectifs. Il n'y a aucun engagement véritable ou très minime de la part de l'autorité qui les signe, recteur ou inspecteur d'académie. Et toute la charge, finalement, est du côté de l'établissement. Conseil pédagogique. Alors, très important. Une des vraies rares novations de ces dernières années, encore faut-il les mettre véritablement en travail. Hein, ça veut dire ne pas les traiter comme des mini-conseils d'administration avec une réunion trimestrielle. Ça, je vois ça aussi. Hein. Donc, pour qu'un conseil pédagogique soit efficace, il faut qui est, à mon avis, disons une ou deux commissions de travail par trimestre, par exemple. Hein. Donc on laisse un petit groupe d'enseignants intéressés par un sujet prendre le temps de le creuser, d'aller voir ailleurs comment ça se passe, de lire les travaux de recherche, de prendre des contacts. Et c'est seulement quand ils se sentent prêts, au bout de plusieurs semaines, que l'un d'entre eux peut rapporter devant le conseil pédagogique. À ce moment-là, on aura une discussion beaucoup plus intéressante que si c'est le chef d'établissement qui établit tous les points à l'ordre du jour comme au conseil d'administration. Alors, les leviers. C'est des leviers basiques, hein, c'est-à-dire qui existent dans tous les EPLE. Il peut y en avoir d'autres en éducation prioritaire, notamment au titre de l'article 34, on en a parlé tout à l'heure. Bon, c'est vrai que il y a relativement peu d'innovations pédagogiques jusqu'à présent en éducation prioritaire. Il y a quelques exceptions, c'est vrai, mais relativement peu, parce que c'est infiniment plus facile, encore une fois, d'innover pédagogiquement dans un établissement favorisé de classe moyenne et supérieure, où a priori, il y a une réceptivité plus importante à un certain type d'innovation, en tout cas. Donc ça se fait, mais relativement peu. On a encore très largement des pédagogies de type frontal. On a peu de travail en équipe. On a peu de mise en interaction des élèves en éducation prioritaire. Il suffit de lire le rapport d'Anne Armand pour en être convaincu. Alors, sur quoi on peut agir quand on est principal? On peut agir sur la composition des classes. C'est important de veiller effectivement à leur hétérogénéité. On peut faire des classes à projet, en sixième, cinquième par exemple, pour voir l'intérêt et en même temps les difficultés de mise en œuvre de classes à projet, qui risquent de recréer des ségrégations internes aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, évidemment, le choix des professeurs principaux est très important. L'élaboration de l'emploi du temps, même si c'est traditionnellement une tâche de l'adjoint, le chef d'établissement ne peut pas s'en désintéresser. Et il faut voir, alors là, du point de vue des élèves, est-ce que on a pris en compte l'intérêt de l'élève dans l'emploi du temps? Est-ce qu'on a évité au maximum les heures de permanence? Est-ce que on ne charge pas trop les journées, etc. Autre chose, de quelle enveloppe hein, de horaire dispose-t-on pour les dispositifs d'aide aux élèves? Comment va-t-on organiser ces différents dispositifs? Qui va bénéficier d'heures supplémentaires? Tout ça, c'est une décision de politique pédagogique. Projet éducatif et culturel, important en éducation prioritaire. Bon, ils sont tout à fait nécessaires pour ouvrir, élargir, enrichir un peu l'offre scolaire. Mais en même temps, il faut veiller à ce que les voyages et les sorties restent abordables hein, pour toutes les familles. Et enfin, bon, il y a surtout peut-être les projets interdegrés et partenariaux hein, pour lesquels le collège n'est pas seul. Ça, effectivement, on l'a dit, hein, c'est là où le comité exécutif, le coordonnateur, secrétaire du comité, l'IEN peut beaucoup aider. Hein. Donc le travail avec les parents d'élèves et les collectivités locales et les associations, c'est vraiment très caractéristique de l'éducation prioritaire et très important. Bon. Alors en conclusion, dans les 2-3 minutes qui restent, je vais vous dire ce qui marche hein, en éducation prioritaire. Il y a peu de réussites remarquables, hein, très peu, de réussites exceptionnelles, j'entends, hein. C'est-à-dire des valeurs ajoutées très supérieures à ce qu'on voit habituellement dans les résultats scolaires, des parcours remarquables d'élèves. Il y en a quelques-unes quand même, hein, au niveau national, dans différentes académies. Qu'est-ce qu'on constate? Dans tous les cas, ou presque, hein, où on a affaire à des réussites remarquables, on trouve presque toujours les mêmes facteurs. S'il y a si peu de réussites remarquables, c'est qu'on n'arrive pas à les réunir en même temps. Hein. Il y en a souvent une partie hein, localement réunie, mais pas la totalité. Alors, quels sont les facteurs essentiels? D'abord, un chef d'établissement charismatique. Bon, ça, vous me direz, il n'y en a pas plus de 10% hein, dans les collèges, y compris les collèges en rare. Hein. Voilà, ça, c'est un premier problème. Bon. Mais ça existe. Bon. Ensuite, un noyau d'enseignants qui soient des militants de la lutte contre l'échec scolaire. C'est-à-dire des gens qui ne comptent pas leurs heures, qui ne comptent pas leur dévouement, qui se défoncent. Il faut en avoir à peu près allez, un tiers. Hein, pas la totalité d'un établissement, mais un noyau suffisant pour pouvoir effectivement entraîner leurs collègues, convaincre, porter les projets, et puis être remplacé, parce qu'on ne peut pas passer des années et des années uniquement sur le dévouement. Hein. Ensuite, il faut des liens renforcés avec les parents. Ça, c'est extrêmement important. Quoi que vous fassiez dans les collèges en rare, même si c'est d'excellents dispositifs, innovants, etc., s'ils ne sont pas connus, compris, soutenus par les parents, ça ne sert à rien. Si le soir, on vous sabote la planche, hein, on vous la savonne, on démolit ce que vous faites de la journée, on n'y arrivera jamais. Hein. Donc il faut absolument que les parents viennent au collège, et pas seulement, pour s'entendre réprimander, hein, mais viennent à toute occasion de valorisation du travail des élèves. Qu'on le remette en main propre les bulletins scolaires, mais ça se fait beaucoup, c'est déjà un premier point. Et si possible, il faut qu'il soit associé plus étroitement que d'habitude au fonctionnement et au projet, notamment d'aide aux élèves. Bon. Ensuite, il faut que les dispositifs d'aide aux élèves, justement, soient suffisamment précoces et intégrés à la classe. Bon. Plus on agit tôt et plus ça se fait dans le cadre de la classe et non pas à l'extérieur, plus on a des chances d'être efficace. Ça veut dire qu'en collège, c'est en sixième qu'il faut mettre le paquet et pas en troisième. Hein. C'est-à-dire que l'essentiel des moyens disponibles pour l'aide aux élèves doivent être concentrés sur la sixième et la cinquième. S'il en reste un peu pour préparer le brevet, bien, d'accord, hein, mais Il faut d'abord travailler sur la sixième, d'abord essayer de rattraper en un an, voire en deux, ce qui n'a pas été fait à l'école primaire. Bon. Et c'est quand même le cas de 20% à 30% hein, des élèves hein, qui arrivent dans les collèges en or. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible, à certaines conditions, on peut y arriver en un an. Autre question, j'ai dit tout à l'heure, bon, faire preuve à la fois d'exigence et d'ouverture, d'écoute et d'ouverture. Et puis, dernier point, mettre en œuvre intelligemment une stratégie d'excellence. Alors c'est très prôné en ce moment, la stratégie d'excellence. Hein, il suffit de lire la dernière circulaire de rentrée ou le bilan des rares, etc. On voit bien que c'est cet aspect qui est mis le plus en avant. Bon, il ne faut pas le surestimer. Moi, je crois que c'est une des composantes, de la réussite globale. Peut-être pas la plus importante, d'ailleurs. À mon avis, c'est beaucoup moins important que le renforcement des relations avec les parents. Mais la stratégie d'excellence peut, effectivement, à certaines conditions, revaloriser l'image du collège, éviter la fuite, faire revenir un certain nombre de familles, redonner l'estime d'eux-mêmes aux élèves, etc. Alors, ce à quoi il faut veiller, c'est que cette stratégie d'excellence ne recrée pas des ségrégations internes. Et donc, par exemple, il faut au maximum essayer de mélanger les classes à projets spécifiques, à options, etc., pour maintenir autant que possible l'hétérogénéité au sein des divisions du collège. Voilà. Et enfin, le dernier point, mais peut-être celui qui se fait le moins, il faut préparer sa succession. Moi, j'ai vu effectivement un des collèges ayant eu une réussite remarquable dans l'agglomération parisienne. Il avait en 15 ans doublé ses effectifs, passé de 400 à 800 pour un collège en éducation prioritaire, c'est absolument exceptionnel. En général, s'ils maintiennent, c'est déjà pas mal. Et souvent, sur la durée, ils perdent des effectifs plus que les autres. Bon. Là, il a doublé ses effectifs. Il y avait des demandes venant de tout le département pour s'y inscrire. Donc, c'est assez intéressant, notamment grâce à une stratégie d'excellence, entre autres, très habilement mise en œuvre, etc. Hein, le chef d'établissement ayant décidé que ses élèves feraient du golf et pas du foot ou du rugby, etc. Voilà, entre autres. Hein. Il est parti, il a été nommé proviseur. Un an après, j'y suis retourné. C'était quasiment démoli à 80% voilà, par son successeur. Donc ça joue dans les deux sens, hein, l'effet charismatique. Hein. Donc voilà, il faut préparer les successions si possible.